Cyclisme, running, trail, avec Le Pape, laissez-vous inspirer par les grandes marques d'équipements de sport outdoor et électro et repoussez vos limites. Le Pape à Paris et Lyon et sur lepape.com.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce deuxième numéro d'Échappée. Après le premier opus consacré au champion du monde, Mathieu Van Der Poel, focus aujourd'hui sur le seul monument français. Il sera disputé le 7 avril, c'est bien sûr Paris-Roubaix. Et pour décrypter les secrets de l'enfer du Nord, trois échappés autour de la table. Nicolas Pertuis.
Bonjour tout le monde.
Pierre Calloir.
Bonjour.
Et Philippe Legars en direct de la Belgique.
Bonjour.
Les présentations sont faites, je vous propose de démarrer. Messieurs, si on s'intéresse à Paris-Roubaix aujourd'hui, c'est pour lever le voile sur ses mystères. C'est une épreuve mythique, historique, mais surtout singulière dans le calendrier, qui ne semble pas à la portée du premier quidam venu. Et là, je me tourne vers vous, Nicolas. Quel est le profil type, s'il existe, du vainqueur de Paris-Roubaix?
On a combien de temps? 5 minutes? 10 minutes? Un quart d'heure? 20 minutes?
On a le temps que vous souhaitez pour bien poser les fondements.
On va essayer de faire simple. La première des qualités, c'est ce que les entraîneurs appellent aujourd'hui la durabilité. Pour le grand public, c'est plus, on va appeler ça de l'endurance de force, c'est-à-dire c'est d'être capable de développer des puissances élevées en sixième heure de course. Ça, c'est la première des qualités pour un coureur de classique, mais encore plus sur Roubaix. À la différence d'autres courses, c'est qu'il y a une chose qui est très importante au niveau physiologique, c'est le compromis puissance-fréquence de pédalage. On en parle rarement. Les coureurs qui n'arrivent pas à avoir la bonne fréquence de pédalage sur les pavés perdent beaucoup, ne sont pas économiques du tout. Et en sixième heure de course, c'est radical. Une chose dont on parle rarement, mais qui est super important au niveau physiologique, c'est la bonne assise du coureur sur sa selle, parce que sur les pavés, les coureurs sont assis. Donc il y a 50 km à peu près de pavés sur Roubaix. Et on n'en parle jamais, ça, mais l'assise du coureur sur le vélo est fondamentale, parce que si on a une mauvaise assise, et là, je ne vais pas rentrer techniquement, physiologiquement, techniquement, parce que c'est en lien avec l'ischio, le muscle qui est derrière la cuisse. Si l'assise est mauvaise et que l'ischio est mal musclé, ben on va développer moins de force. Enfin, c'est très compliqué. Mais l'assise, un coureur comme Mathieu Van Der Poel a une très belle assise. D'ailleurs, on en parlera dans le prochain Vélo Magazine de ça. Et forcément, c'est un avantage. Et le dernier, dont on parle encore moins, mais qui est encore plus fondamental, c'est l'aéro. L'aéro du coureur sur son vélo de route est fondamental. Et pour en revenir encore à Van Der Poel, il faut bien comprendre que ça se voit à l'œil nu. J'en ai parlé avec beaucoup d'entraîneurs ces derniers jours. À vue d'œil, Mathieu Van Der Poel, quand il est coudé, c'est-à-dire les mains sur les poignets coudés, il est beaucoup plus aéro qu'un Van Aert. Et je veux dire, un Van Aert, pour aller à la même vitesse qu'un Van Der Poel sur une dernière heure de Roubaix, ils doivent développer entre 30 et 40 watts de plus. Donc on voit bien que sur une course où les deux dernières heures, les coureurs sont sans coéquipier souvent, enfin ils sont souvent seuls face au vent, l'aéro est fondamental après Roubaix.
Pierre, je me tourne vers vous pour évoquer l'aspect mental également, parce que le profil type, ça implique des qualités physiques, mais également un travail psychologique.
Ouais, je vais juste compléter avec des stats un peu ennuyeuses ce que vient de dire Nico, mais c'est vrai que c'est assez constant. J'ai appelé hier Adrien Petit pour voir si justement les mystères de Paris-Roubaix, s'ils étaient toujours les mêmes qu'il y a 10, 20, 30, 40 ans. Et en tout cas, pour ce qui est du profil physique, c'est à peu près les mêmes chiffres, quoi. La moyenne des vainqueurs, c'est 1m80 pour à peu près 75 kilos. Et la moyenne du peloton 2024, tel qu'on connaît actuellement, c'est un petit peu plus, c'est 1m85 pour 74,5 kg. Voilà, pour une moyenne d'âge de 27 ans, ce qui m'emmène à votre question. Effectivement, l'expérience est un vrai atout, parce que justement, mentalement, ça donne une assurance, ça donne une sérénité qui est importante, et mais ça, c'est de la fatigue mentale qui se transforme enfin, c'est de l'énergie mentale qui est préservée en énergie physique, évidemment, notamment en fin de course.
Philippe, Bernard Hinault, alors ça date un petit peu, disait de Paris-Roubaix, je cite, que c'était une connerie. Va-t-on réellement plus loin dans la douleur que sur les autres courses?
C'est aussi pour ça qu'on voit ces coureurs quasiment tous allongés sur le vélodrome à l'arrivée, c'est-à-dire qu'ils sont allés au bout d'eux-mêmes et il n'y a pas une course qui offre ces images-là sur une arrivée. Bon, après, le décor s'y prête aussi, il y a une pelouse, mais on sent quand même qu'il y a cette fierté de finir. Et il n'y a pas beaucoup de courses, je crois que c'est la seule, où le coureur tient à finir et peut même être vexé s'il arrive hors délai, alors que sur les autres courses, bah, ils s'en moquent un peu parce que, voilà, ils savent que la course n'est pas faite pour eux, qu'ils n'étaient pas là pour gagner. Mais en revanche, ils étaient là pour finir et d'arriver sur le vélodrome. Alors, il y avait cette fameuse légende d'arriver avant la fermeture du portail, des barrières du vélodrome. C'était une légende, mais elle tient encore. Et je sais qu'il y a des coureurs qui veulent arriver avant que la porte soit fermée. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que Ils sont capables d'aller jusqu'au bout, au bout d'eux-mêmes, au bout de leur souffrance. Mais ça, ils sont préparés. Si on fait Paris-Roubaix, c'est pour souffrir. C'est pas pour autre chose, à part 10 qu'ils peuvent espérer gagner. Sinon, le reste, c'est pour souffrir. Mais pour être fier d'avoir fini Paris-Roubaix.
Aller au bout, oui. C'est sûr que sur Paris-Roubaix, il y a ça. On voit aussi la fin de certaines étapes de montagne, des coureurs s'effondrer et aller au bout d'eux-mêmes. Mais je crois, et là je rejoins Philippe là-dessus, c'est que pour faire Roubaix, pour préparer Roubaix, il faut être habité en fait. Le terme habité est important. C'est-à-dire que je me rappelle avoir fait un sujet il y a 15 ans de ça avec Frédéric Guédon, qui est le dernier vainqueur français de Paris-Roubaix en 97, mais j'avais fait un sujet en 2006-2007 sur la préparation de Roubaix. Ce garçon savait exactement à J-18 de la course à quel niveau il devait être. Au Edvolk, on appelait le Edvolk à l'époque, hein, ça ne s'appelle plus comme ça, à quel niveau. Chaque coureur qui est habité par cette course, à partir du moment où le Edvolk commence, il sait exactement à quel niveau il doit être sur telle course, sur le E3. Enfin, il y a toute une ambiance, les coureurs sont dedans. Et le terme habité est important, plus que de se mettre minable et tout ça. Je pense que c'est ça, on est habité par Paris-Roubaix ou on ne l'est pas.
Il y a une sorte de petite folie quand même chez les coureurs, eux-mêmes l'admettent. À la fin, quand ils sont sous les douches, ils sont tous là à dire « il faut être fou pour faire cette course-là ». Mais ils l'ont faite quand même et ils sont allés au bout. Mais c'est ce coup de folie qui rend cette course totalement folle aussi. Donc du coup, dans son scénario, et pas seulement devant, pas seulement pour les vainqueurs ou les favoris, c'est derrière aussi. Il y a une ambiance incroyable quand on voit sur les premiers secteurs pavés, les premiers lâchés. On se dit « mais il leur reste quand même 180 km à souffrir ». Mais ils continuent, quoi. On les voit pas s'arrêter parce qu'ils ont chuté au premier secteur pavé. Et ça, c'est vraiment typique de Paris-Roubaix.
Oui, la folie, elle est partout. Parce que pour avoir discuté avec Frédéric Moncassin ces derniers jours, lui me racontait que c'est la seule course où les mécanos de chaque équipe, avant le briefing, vont voir les voitures. Où les vélos sont positionnés sur la galerie, parce que ça détermine quel coureur est protégé ou pas. Et chaque mécano de chaque équipe fait ça. Et au briefing, si le vélo est au milieu, on sait que si le coureur est échappé, il ne va pas jouer la gagne. Donc c'est ça, Paris-Roubaix. C'est la folie, mais à tous les niveaux, pas simplement pour les coureurs.
C'est aussi la seule course où il faut être volontaire dans l'équipe pour y aller. On ne peut pas vous imposer de faire Paris-Roubaix. Et même dans les équipes qui sont tournées vers les classiques, ils le savent très très tôt, les coureurs, que ce sera dans leur plan de course de l'année, à partir de décembre, ouais, début décembre, premier stage, ils savent qu'ils feront Roubaix.
Philippe employait tout à l'heure le terme de légende, parce que Paris-Roubaix, c'est une course qui nourrit aussi ses propres mythes. Et il y en a un qui persiste année après année. Pour gagner au Vélodrome, il faut nécessairement être épargné par la malchance. Dans quelle mesure cette chance ne peut pas aussi se provoquer? Y a-t-il des facteurs limitants?
Non, je pense que c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une question de chance. C'est pas obligatoirement le plus fort qui gagne à Roubaix sur le Vélodrome. Et c'est aussi ce qui fait aussi qu'il a entretenu la légende de cette course. Il faut reprendre par exemple Gilbert Ducoulassal. Il a dû courir 10 fois avant de gagner la première fois. Et à chaque fois, il pensait toucher au but. Et au dernier moment, il y a ce petit coup de malchance, une crevaison, une chute de vent. Pas obligatoirement lui-même, mais une chute de vent qui fait que, que ça prive tout espoir, toutes les ambitions s'écroulent à ce moment-là. Rien que les dernières années, au Carrefour de l'Arme, c'est de voir des coureurs qui pensaient qui jouaient la gagne, Uchoft, Stibar, Lampaert, Degenkolb, des coureurs qui ont chuté à un endroit, l'endroit où on va gagner Paris-Roubaix. Bien sûr, il y a la fatigue, mais quand Van Aert crève l'an passé, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Il aurait pu arriver au Vélodrome avec Van Der Poel et ça aurait tout changé peut-être, mais il y a cette crevaison. Et la crevaison, alors, je me rappelle, Philippe Gilbert avait dit que c'était un mauvais placement sur les pavés. Oui, mais bon, une crevaison, ça, c'est comme un coup de malchance, comme en général. C'est quelque chose de particulier, cette course. Et les coureurs, je me rappelle, dans l'époque de Madio, Duclos Lassalle, ils étaient tous d'accord pour dire que ça sentait dès le début de la course, si c'était la bonne journée ou pas la bonne journée. Dès le début de la, avant même des fois les pavés, de se dire, s'il crève, s'il y a une première crevaison, entrer sur le premier secteur pavé, eh ben, la journée, elle est pourrie, et c'est la malchance, et c'est à peine. Bon, il faut qu'il continue, évidemment, mais ça s'enchaîne, en fait. Il y a des vainqueurs qui n'ont pas eu un pépin technique et qui n'ont pas eu une crevaison. Et ça, c'est un truc incroyable, parce que je pense que la chance ou la malchance joue énormément sur cette course, énormément. Moi, je donnerais 90%, c'est la chance et ou la malchance. Ah, bien sûr, il faut être très fort, c'est bien sûr. Le coureur qui découvre Paris-Roubaix le plus anonyme possible, qu'il a une chance absolue, il ne va pas gagner Paris-Roubaix, il faut être très, très fort. Mais parmi les favoris, il y a comme cet élément-là qui entre en ligne de compte énormément.
Il y a un paramètre qui peut moduler un peu cette malchance, c'est la lucidité, notamment en fin de parcours. De Vlaming, qui l'a gagné 5 fois, a dit qu'il n'a jamais, comme disait Philippe, il n'a jamais crevé. Et il attribuait ça aussi au fait que, en fin de course, il sait exactement que dans telle flaque, il ne faut pas rouler parce que il ne sait pas ce qu'il y a sous l'eau. Il y aura un choix d'ornière qui sera plus lucide au moment où les autres vont être plus fatigués. Donc voilà, c'est pas, ça n'exclut pas complètement la crevaison ou pas, mais, non, mais vrai, ça peut limiter un petit peu, ça peut jouer un petit peu.
Moi, j'ai cette image de la dernière participation de Cancellara sur l'Enfer du Nord. Et cette chute où lui tombe et Sagan ne tombe pas parce qu'il est plus habile que Fabian finalement. Et Sagan passe et pas Fabian. Donc oui, la chance forcément, évidemment, c'est sur cette course-là, c'est évident. Mais par moment, il faut aussi savoir la contourner, je crois.
Justement, l'habileté sur les pavés, est-ce qu'elle peut se travailler? On entend souvent, à tort, à raison, que les vététistes, les crossman sont avantagés. C'est vraiment le cas?
Forcément, on voit un Christophe Laporte qui vient du VTT. On voit Van Der Poel, on voit Van Aert, forcément, ils sont avantagés, mais à un moment, on ne s'entraîne pas sur les pavés, quoi. Donc, les coureurs ne s'entraînent pas sur les pavés. Donc,
c'est une culture, c'est des habitudes.
C'est au-delà de ça. Sûr. D'ailleurs, Philippe connaît ça, et Pierre aussi, quand on suit des coureurs, ils cherchent le pavé, et quand ils courent la course, ils fuient le pavé, ils essaient de l'éviter. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a marqué chez le coureur. Mais non, on ne s'entraîne pas sur les pavés. Enfin, je veux dire, les coureurs ne vont pas faire du fractionné sur les pavés comme ils vont faire du fractionné pour préparer un col pour le Tour de France. Très différent.
Il y a une culture, les cyclo-crossman, on parlait de cyclo-crossman, moi ça vaut aussi pour le VTT, mais surtout pour le cyclo-cross, c'est-à-dire que c'est des efforts courts qu'ils font sur une heure en cyclo-cross. Ça aide au placement sur une course comme Paris-Roubaix. C'est-à-dire qu'on verra, ceux qui ont l'habitude du cyclo-cross, ils savent se placer. Ils ne sont jamais à contre-temps, donc ils ont toujours un coup d'avance, ils anticipent sur les autres, parce que s'ils font ces petits efforts courts qu'ils font sur le cyclo-cross, ça vaut pour Van Der Poel, ça vaut pour Van Aert. Ils ne sont jamais en troisième rideau. Ceux qui ne sont pas habitués au cyclo-cross, ils se placent moins bien. Alors ils sont très forts, évidemment, les rouleurs notamment. Mais le placement, ça c'est vraiment inné pour comme dit Nicolas, c'est inné, c'est pas, ça se travaille pas et c'est cette culture du cyclocross qui aussi permet ce placement qui est idéal pour Paris-Roubaix. Il vaut mieux être en première position ou en deuxième position qu'en dixième hein, sur les pavés. Donc et ça les cyclocrossmen le savent très bien.
Pour le placement, le temps, ok, là je suis d'accord. Après sur le pavé, on est dans le compromis puissance fréquence de pédalage. On en revient là, c'est-à-dire qu'un coureur qui est pas capable d'être entre 85, 90, voire 95 RPM sur le pavé, s'il est plus bas, c'est compliqué dans la sixième heure d'être efficace. Donc on le voit aujourd'hui plus qu'avant, sur les pavés, les coureurs tournent plus les jambes qu'il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années.
Il y a un contexte dans lequel les cyclocrossmen et les vététistes sont un peu avantagés, c'est quand il pleut, parce que là la technique peut prendre un peu le dessus sur le pur physique et sur le fait d'emmener un gros braquet. Quelqu'un comme Pidcock qui a gagné Paris-Roubaix en espoir et en junior, on peut dire comme ça à l'évidence qu'il n'a pas beaucoup de chances de le gagner là en élite, mais s'il pleut, sa technique peut prendre le dessus.
J'aimerais qu'on poursuive quelques minutes par rapport à cette question d'entraînement, la préparation nécessaire pour gagner Paris-Roubaix. Nicolas, on en parlait dans l'épisode consacré à Mathieu Van Der Poel, de cette incompatibilité des préparations pour les Flandriennes et pour les Ardennaises la même année. Ce qui m'amène à vous poser cette question, faut-il faire de Paris-Roubaix une priorité absolue dans son calendrier pour espérer pouvoir le remporter?
C'est pas que Paris-Roubaix, c'est les classiques du Nord. Les coureurs, quand ils préparent, que ce soit le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, hein, parce que les deux, sont c'est la même préparation, hein, les coureurs vont faire des efforts spécifiques sur... on va être en dessous de la PMA, c'est-à-dire qu'on va être entre 30 secondes et 3 minutes. C'est le temps, 3 minutes, sur les monts les plus longs sur les Flandres. C'est les temps d'effort, il faut être le meilleur. Sur les Ardennaises, on va être sur des temps d'effort entre 5 minutes et 10 minutes. Au niveau spécifique, c'est pas la même chose, c'est pas la même préparation. C'est du détail, là, hein, attention, parce que la base de travail, elle est la même, mais c'est pas la même préparation. Et puis c'est surtout qu'aujourd'hui, Liège-Bastogne-Liège est 3 semaines après Roubaix, si je me trompe pas, ou 15 jours ou 3 semaines, je sais plus exactement. Mais en termes de préparation, c'est aussi très différent dans la redescente de l'altitude. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Le coup de pédale n'est pas le même pour les Ardennaises que... Enfin oui, non, oui, deux préparations différentes, ça c'est obligatoire aujourd'hui, surtout dans le cyclisme moderne.
15 jours seulement d'écart entre Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège. Par rapport à la préparation pour Paris-Roubaix, est-ce qu'aujourd'hui il est encore possible pour les coureurs de grand tour d'y briller? Je pense notamment dans le futur à Tadej Pogacar.
C'est vrai qu'il y en a eu pas mal hein, quand même. Enfin, on a parlé de Bernard Hinault, Louison Bobel a gagné aussi, Anquetil, Merckx.
Ouais, c'est une autre époque. Hein.
C'est une autre époque.
Maintenant,
c'est devenu hyper spécialisé.
Wiggins, c'est le dernier.
Wiggins,
c'est le dernier qui a voulu tenter le coup quand même en 2014. Hein, donc, il fait quand même deuxième. Hein, c'est pas ridicule. Hein. Il avait gagné le tour 2 ans auparavant. Pogacar, lui, il a envie. Hein.
Oui.
Il me l'a encore dit l'autre jour. Je l'ai eu au téléphone il y a 2 semaines avant Milan-San Remo. Il a placé, on a fait un classement. des lieux, des monuments, les préférés des champions. Et lui, il a placé Arambert en deuxième, alors qu'il n'a jamais fait, quoi. Alors, parce que ça te fait rêver de rentrer dans cette partie d'un enfer, comme il dit, c'est l'enfer, et quand on est coureur, on a envie de connaître ça. Et moi, je pense que Pogacar, il est habile sur le vélo, il est puissant. C'est pas incompatible. Maintenant, c'est prendre des risques c'est vrai qu'il peut se casser la figure et ça perturbe, comme on l'a vu pour Liège-Bastogne-Liège. Deux semaines plus tard, il se casse la figure, il est blessé et il revient pas à temps pour le tour. Et il y a autant de risques sur Paris-Roubaix de se casser la figure et se casser la clavicule ou le scaphoïde et puis ne pas être prêt pour le Tour de France. Ça, c'est vraiment un vrai risque. Ça se fait plus en fin de carrière quand il aura gagné 3 ou 4 Tours de France, comme il dit. Il pourra prendre ce risque-là, une fois que son palmarès sera fait sur le Tour de France. Quoi.
Je posais la question à De Gendt Kolb il y a quelques jours, de savoir si pour lui, Pogacar pourrait gagner le Paris-Roubaix. Il répondait oui sans aucune incertitude. Mais attention quand même, parce que le Tour des Flandres n'est pas Paris-Roubaix. Hein. Il y a des coureurs qui marchent sur le Tour des Flandres qui ne marchent pas sur Roubaix.
Tout à fait.
Parce que sur le Tour des Flandres, il faut être très explosif. Il n'y a pas besoin d'avoir cette qualité-là sur Paris-Roubaix. Cette explosivité, elle s'efface progressivement. C'est pour ça qu'il y a des coureurs, d'ailleurs, qu'on voit sur Roubaix, qu'on ne voit pas sur les Flandres. Par exemple, Backstedt, on ne l'a jamais vu sur les Flandres. Enfin, on ne va pas faire l'étalage de tous ces coureurs-là, mais c'est important. Je veux dire, quand même, Pogacar est plus dans ce registre puncher. Donc, il a cette explosivité dont il n'aura pas l'utilité sur Paris-Roubaix. C'est quand même la petite nuance pour Pogacar. Mais il a cette force des reins. D'ailleurs, c'est hallucinant concernant ce coureur. Je me rappelle en 2020, à un moment, je me suis retrouvé à côté de lui au départ d'une étape du Tour. Il était en cuissard debout. Et il avait excusez-moi d'employer cette expression, mais un cul de sprinter. C'est-à-dire qu'il avait... Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que quand on va voir les pistards, les vrais pistards, c'est-à-dire là, je parle des pistards, ceux qui font de la vitesse individuelle, ils ont une espèce de... Au niveau des reins, comme si c'était un peu enflé derrière... Et lui, Pogacar, il a ça en plus. C'est incroyable, cette force qu'il a dans les reins. Ce mec est incroyable, quoi.
Philippe, toujours sur la préparation, j'aimerais vous interroger sur les reconnaissances. Vous suivez les classiques de près, puisque vous êtes sur place. Comment est-ce qu'elles s'organisent? Comment est-ce que ça se prépare, une reconnaissance? À quelle date est-ce qu'il est préférable de la programmer? Combien de temps ça dure? Combien de passages est-ce qu'on effectue sur les différents secteurs pavés?
Bah, je vais être un peu provocateur, mais je pense que ça sert à rien en fait, parce que ceux qui veulent gagner, les favoris, les outsiders, ils connaissent parfaitement Paris-Roubaix, parfaitement les pièges. Les principales reconnaissances ont lieu le jeudi et le vendredi avant Paris-Roubaix. Certains le font l'hiver ou en janvier. Maintenant, il y a une petite nouveauté là, on les voit, mais pas les grosses équipes. Hein. C'est pas Van der Poel qui va les reconnaître les pavés au mois de janvier, quoi. Ça c'est ou Van Aert. Mais sinon les reconnaissances. Il y a une part de cérémonial quand même, le jeudi, le vendredi avant Paris-Roubaix, c'est pour les photos, et aussi, je pense, pour se rassurer. Pour se rassurer, se dire, voilà, on a le bon coup de patte, on a le bon coup de pédale, ça va, on va être bien dimanche. Il y a eu des périodes où même certaines équipes ne faisaient pas, certains coureurs ne le faisaient pas. J'ai souvenir que Museux ou Boonen avaient zappé des fois. Alors, leur équipe y allait, mais eux ne le faisaient pas. C'est pas une obligation. C'est juste, à mon avis, c'est plus folklorique. c'est la provoque, hein, évidemment. Mais bon, mais je pense pas que ça serve à grand chose.
C'est vrai que ça peut paraître un peu cérémonial et un peu factice, mais surtout quand on parle à des coureurs, comme hier encore une fois, Adrien Petit, il l'a fait 11 fois. Donc, on peut imaginer qu'il a fait autant de recours. Et pourtant, il disait quand même que c'est beaucoup plus studieux que d'autres connaissances. Parce que même s'ils connaissent les secteurs par cœur, il peut y avoir des mobiliers urbains qui a changé d'une année sur l'autre. Donc ils sont assez attentifs sur ça. Il y a déjà une espèce de tension. C'est pas énorme, mais il y a une attention prête à ça. Et j'ai une anecdote sur une reconnaissance avec Boonen, justement, qui m'avait été racontée par Marc Meyer, qui était un pilote de moto des photographes de l'équipe. Et je sais pas si vous voyez, mais au carrefour de l'Arbre, il y a un angle droit qui introduit la dernière partie pour arriver jusqu'au restaurant. Et Boonen avait pris à différentes vitesses cet angle droit dans l'ornière intérieure, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et tout le monde se demandait pourquoi et comment. Et en fait, il avait décidé qu'il passerait ce virage-là à gauche, à fond. Donc ça a permis justement au motard d'adapter sa vitesse de motard. Ça, c'est accessoire. En tout cas, pendant la course, le dimanche d'après, il a pris ce virage à fond. Il était suivi par Uchoft, qui s'est envolé et qui est tombé. Et il a attribué en partie ce fait de course par la bonne reconnaissance qu'il avait fait précisément de ces quelques mètres de ce virage et de cet angle droit dans le carrefour de l'Arbre.
Guédon, lui, regardait avant Paris-Roubaix, regardait une édition à la télé en boucle. En fait, les recos ne lui servaient pas à grand-chose, mais quand il était en course, il savait se retrouver en course grâce à ce visionnage d'édition. Alors, c'est très différent aussi, mais forcément, je veux dire, à un moment, les recos, ça aussi au test de matériel, parce qu'aujourd'hui, le matériel...
C'est ça aussi.
Je veux dire, si on sait que le jeudi, il va pleuvoir, je pense que les mécanos, on va tester les pneus à des pressions différentes. Ça sert aussi à ça, je pense, les recos. Mais moi, je ne les fais pas, donc je n'ai pas cette expérience de journaliste. Je suis rarement sur les recos de Paris-Roubaix.
Sur le côté stratégie de course, maintenant, alors parmi les mythes à coller à Paris-Roubaix, il y a celui qui le considère comme le monument le plus accessible aux échappées matinales. Est-ce que c'est vrai et est-ce que vous avez une explication rationnelle ?
Pour moi, c'est d'un autre monde. Quand on voit les dernières éditions de Roubaix, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a la télé maintenant qui retransmet du début de la course jusqu'à la fin, mais on voit bien qu'aujourd'hui, si une échappée arrive à rentrer 30 secondes sur le secteur de Trois-Villes, c'est un exploit. Donc j'ai envie de dire que oui, les échappées, c'est d'un autre temps. Peut-être que cette année, ça ne sera pas ça, mais j'ai l'impression que ça va être de plus en plus compliqué de gagner Roubaix en partant dans la première échappée.
Ouais, le dernier, c'est O'Grady, je pense, hein, qui était parti dans la première échappée. Donc ça remonte à 2007. Hein. Ça dépend aussi des conditions climatiques. Si le vent est favorable, si ça roule très vite, si l'échappée... Et puis, c'est aussi les stratégies d'équipe de mettre un élément qui n'est pas prévu pour être devant dans le final. Et puis, comme O'Grady l'avait été, ça peut perturber les autres équipes qui comprennent pas pourquoi, mais comme O'Grady dans une échappée du matin. Aujourd'hui, tout est tellement bien calculé dans les équipes qu'ils ne laissent pas partir une échappée avec des coureurs qui sont dangereux pour le final. Ça paraît trop risqué.
Pierre, dernière question par rapport aux stratégies de course avant de s'intéresser aux coureurs français. Y a-t-il des secteurs clés pour durcir la course ou pour attaquer ? Quels sont rapidement les 3-4 secteurs les plus importants de cette course ?
Oh bah les secteurs qu'on connaît bien, mais il y a un truc intéressant sur les secteurs, c'est que, enfin au niveau World Tour en tout cas, les secteurs pavés, c'est que l'enjeu c'est avant en fait, c'est le placement, donc c'est la configuration de la course avant de rentrer dans le secteur. Et de façon un peu contre-intuitive, une fois qu'on a disputé le sprint pour se placer selon l'orientation de la voie avant, si elle est large, etc., là, on a fourni son effort et il y a une espèce de mécanique qui veut qu'une fois qu'on est sur le pavé, on va choisir une bonne trajectoire, en général le haut du pavé. Et là, les positions sont à peu près figées. Paradoxalement, c'est presque un moment où les coureurs vont souffler presque. C'est ce que disait encore Petit hier soir. Et s'il y a des coureurs qui essaient de passer sur les côtés, qui essaient de se placer, qui essaient de gratter 2-3 places, en général, c'est plutôt un signe d'inexpérience, parce que c'est de l'énergie qu'ils vont perdre pour la fin de course. Donc les secteurs, bien sûr, ils sont toujours dangereux, glissants, etc. Mais les coureurs, une fois qu'ils sont rentrés dedans, sauf, évidemment, encore une fois, on en a parlé, malchance, ornière, boue, pluie, etc. C'est assez figé. Le vrai enjeu, c'est le placement avant de rentrer dans le secteur.
Nicolas, vous avez fait allusion tout à l'heure à Frédéric Guédon. C'est le dernier Français à avoir remporté Paris-Roubaix en 1997. Alors une question toute simple, pourquoi les Français n'y arrivent plus ?
Oh. Bah, si je savais, je pense que je serais manager d'une équipe française. Je vais répondre à cette question assez basiquement. Romain Bardet a fait deuxième du Tour de France, tout le monde connaît Romain Bardet. Turgot a fait deuxième de Paris-Roubaix, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui connaît Turgot. Donc je pense que j'ai répondu un peu à la question en répondant ça.
Je crois que c'est Marc Madiot qui disait, si demain il y a un Français qui gagne coup sur coup Tour des Flandres et Paris-Roubaix, qui s'en souviendra ? Et ça ne va pas arracher des larmes aux Français, il disait. C'est le poids du Tour, en fait, hein, qui fait ça. Culturellement, c'est le poids du Tour. Donc l'orientation, elle est faite sur le Tour, de l'organisation du cyclisme en France. Voilà, donc Paris-Roubaix, ces classiques-là, la préparation, l'enjeu qui est mis sur ces classiques est beaucoup moins important.
Philippe, c'est un monument qui fait davantage rêver les étrangers. Alors depuis que la France a remporté pour la dernière fois l'épreuve en 1997, la Belgique s'est imposée 10 fois, les Pays-Bas à 4 reprises, l'Italie 3 fois. C'est un désintérêt notable de la part des coureurs français ?
Non, je pense qu'il y a des coureurs français qui rêvent de gagner Paris-Roubaix. Mais il faut qu'ils aient cette culture aussi. Et effectivement, c'est des coureurs qui ne pensent pas obligatoirement au Tour de France, même si y a un contre-exemple, c'est Sylvain Chavanel. À partir du moment où il s'est retrouvé dans une équipe, d'abord chez Cofidis, qui adorait ces courses-là, puis après chez Quick-Step, qui était une équipe faite pour ces courses-là, Sylvain Chavanel, il s'est pris de passion et il rêvait de gagner Paris-Roubaix, comme le Tour des Flandres. Je pense que c'est une culture, comme disait Pierre, c'est culturel. Et je pense qu'un coureur qui se retrouve dans une équipe focus sur cette course-là, eh ben, il prend goût, quoi. Et c'est Sénéchal, il a connu aussi Cofidis et Quickstep, et il a ça en tête. Hein. Adrien Petit, il est dans une équipe belge. Bon, après, lui, Adrien Petit, c'est un peu, et Sénéchal aussi, c'est un peu différent parce qu'ils sont du Nord, donc c'est vraiment leur course locale. Donc, c'est juste une question de culture, effectivement. Pas seulement le Tour de France, parce que je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que c'est deux courses. Oui, effectivement, le Tour de France reste la principale préoccupation des équipes françaises, mais pas des coureurs obligatoirement. Et moi, je suis persuadé, et je pense que Marc Madiot a tort, je suis persuadé que si un coureur français gagnait le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, on en parlerait énormément, quoi. On en parlerait énormément. Moi, je suis sûr qu'on ferait la une de l'équipe, même un lendemain de classico OM-PSG. Hein. Je mets la pression.
Nicolas, ça ferait au moins la une de Vélomag.
Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a une chose qui est importante dans ce que dit Philippe, c'est il parlait tout à l'heure de Sylvain Chavanel, et moi, j'ai ce souvenir de cette aventure de l'équipe Cofidis avec Alain Deloye, qui était un peu à la baguette, mais il y avait une communion, c'est-à-dire que encore une fois, mon cassin m'a expliqué ça, c'était important. Il a fait X années chez Gann et X années, il a fait 2 années dans une équipe qui était managée par Ian Rass, qui s'appelait World Perfect. Et il m'expliquait qu'en fait, dans l'équipe étrangère, tout le monde allait à la guerre pour Paris-Roubaix. Que ce soit le mécano, que ce soit le manager, que ce soit le soigneur. Chez Gann, ce n'était pas le cas. Je crois qu'il a répondu aussi à beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on a des coureurs habités par cette course, mais je crois qu'on n'a pas d'équipe française habitée par cette course. Marc Madiot a beau avoir gagné Paris-Roubaix 2 fois. J'ai jamais senti dans son équipe, c'est peut-être sévère hein, ce que je dis, mais moi en tout cas, j'ai jamais senti ça, peut-être que c'est faux. Cet esprit de corps, tout le monde, enfin, il y a eu ça chez Cofidis, je l'ai senti, ça a duré 2 ans. D'ailleurs, ils ont fait 2e avec Nuyens d'un Tour des Flandres cette année-là. Chavanel avait gagné des semis classiques. Il y a eu un début de quelque chose chez AG2R quand ils ont recruté Nassen, mais bon, on a senti que c'est vite tombé à l'eau. Voilà, est-ce que c'est une des réponses à la question? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être une petite porte ouverte vers une explication. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est une petite explication.
Oui, 2 choses. La culture, elle se transmet. Il faut distinguer les Français des gens qui habitent dans les Hauts-de-France et qui apprennent leur vélo dans les Hauts-de-France. Parce qu'eux, ils sont imprégnés de ça. Ils roulent sur les pavés. Ils vont rouler en Belgique. Les juniors vont rouler sur beaucoup de courses en Belgique. Il y a une transmission de la culture des pavés. Il y a des clubs qui emmènent les coureurs dès le plus jeune âge à aller rouler sur les secteurs. Le comité des Hauts-de-France entraîne ses juniors et organise des courses comme la PVL Classique la semaine prochaine ou le Paris-Roubaix Junior qui sont très très prises. Sur la proposition de pourquoi il y a le poids du tour, on peut retourner la proposition aussi, c'est-à-dire en Belgique, aux Pays-Bas, pourquoi il y a moins de coureurs de grand tour? Parce que eux, vraiment, ils ont cette culture, ils sont focalisés là-dessus. Et dernier point, les pavés, l'entraînement sur les pavés, la culture des pavés suffit pas, il faut le physique. Aujourd'hui, ça s'est internationalisé. Il y a des Italiens qui gagnent, qui ont jamais connu de pavés. Une fois qu'on sait qu'ils ont la physiologie, le corps, l'anatomie, les prédispositions physiques pour gagner Paris-Roubaix, pour rouler 6 heures à bloc, là, on va leur apprendre les pavés. Donc ça s'est un peu rationalisé. C'est rendu beaucoup plus technique, beaucoup plus scientifique. Donc une fois qu'on a détecté le profil, on le met sur les pavés et puis c'est... En théorie, ça passe.
Justement, parlons de ce profil. Ce sera l'objet de ma dernière question. Dernier tour de table rapide. Quel Français dans le peloton actuel vous semble le plus crédible comme candidat potentiel pour une victoire sur Paris-Roubaix? Rapidement, 30 secondes chacun.
Bah, je veux dire, il n'y en a qu'un hein, qui sort du lot actuellement, c'est Christophe Laporte. Hein. Malheureusement, je peine à croire que cette année, on le verra à son avantage sur Roubaix. Il est malade, mais il a toutes les qualités pour gagner cette course.
Ouais, bien sûr, Christophe Laporte, mais j'aurais rajouté Florent Sénéchal. Mais effectivement, lui, c'est pareil. Cette année, ce sera pas pour lui, qui revient d'une fracture de la clavicule. C'est effectivement ces 2 coureurs qui ressortent du lot parce que Laporte, je pense qu'il a ça en lui, mais encore plus maintenant dans une équipe qui vit ces classiques-là. Et Florian Sénéchal, il a ça en lui parce qu'il est originaire de cette région et qu'il a vécu dans une équipe comme Quickstep, comme je disais tout à l'heure, où c'était culturel. Donc, il a acquis cette culture-là. Donc, mais bon, ce sera pas pour cette année normalement.
Bah pour cette année, oui. On a nommé tous les Flandriens français entre guillemets. Moi, j'ai noté qu'il y avait un jeune Français qui avait gagné le Paris-Roubaix Junior, Mathis Grisel, qui est du Nord, qui est du comité des Hauts-de-France, et qui, après avoir été repéré par AG2R, là, fait ses classes chez l'autodestinée dans l'équipe de développement. Voilà, c'est peut-être pas pour, c'est évidemment pas pour cette année, mais pour les années à venir, peut-être à suivre.
Rendez-vous le dimanche 7 avril donc pour Paris-Roubaix, le 6 pour l'épreuve des dames. C'en est terminé, messieurs, de ce deuxième numéro d'échappée. Merci Pierre Calwart, merci Philippe Legarce, merci également à Nicolas Pertuis. Je remercie Léa Léostic et Marie-Amérie Limotte pour la réalisation et l'enregistrement. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast avec tous les autres podcasts de l'équipe. À bientôt.